Eh bien, bon dimanche à tous, vous allez bien? On est content de revoir Philippe, Marie-Claire, Olivier déjà rentré, Lucas, Élise qui sont rentrés aussi. Le chien leur a fait une vie pas possible. Cette nuit, c'était très difficile de dormir parce que le chien voulait aller les embêter. Donc, il nous a réveillés de très bonne heure. Quel casse-pied ce chien, mais on l'aime tellement. Voilà. Ça, c'est pour les derniers petits potins. Autrement, ça va bien. Par la grâce de Dieu, ça va bien. On a des nouvelles pas très brillantes au sujet de notre frère Arthur Alamand. Il a de nouveau dû être hospitalisé. Il faut continuer à prier pour lui et que Dieu fasse ce qu'il veut. Et si c'est pour le reprendre, ben, qu'il le reprenne, qu'il ne souffre plus. Mais si c'est pour les guérir, alors qu'ils le fassent rapidement. Amen.
Amen.
En tout cas, sa femme, ses filles, elle, lui, il croit toujours dans la guérison. C'est bien. Voilà, c'est bien. Gloire à Dieu. Ce matin, on va continuer notre étude dans l'Apocalypse. On va prendre Apocalypse 1, 12, 13. C'est Jean qui parle et qui dit « Je me retournais pour voir qui me parlait, et m'étant retourné, je vis sept ménorotes d'or. » Les ménorotes, c'est les chandeliers, vous savez. « Parmi les ménorotes se tenait comme un fils d'homme, vêtu d'une robe qui descendait jusqu'à ses pieds, et d'une ceinture d'or autour de la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, ses pieds brillaient comme du cuivre poli, et que l'on aurait raffiné dans une fournaise, et sa voix sonnait comme celle des grandes eaux. Amen. Seigneur Jésus, je te prie vraiment de nous éclairer, alors que nous étudions ce texte, et que nous puissions voir la réalité. Jean, il veut voir, et il veut entendre, le mystère intime de l'immortalité, alors il se retourne. Je vous ai parlé de ça vendredi passé, il se retourne. Là où Dieu seul parle, c'est-à-dire derrière le voile de notre chair. Si c'est par la chair qu'on entend, ça peut être des démons, ça peut être notre chair, mais en réalité, ça n'est jamais le Seigneur. Le Seigneur ne parle pas comme ça. Il ne parle pas au travers de la chair, il ne parle pas dans la chair. Et s'est-on retourné pour écouter et pour entendre, et pour comprendre, eh bien, il voit. Il voit sept chandeliers d'or. En fait, ce qu'il voit, c'est exactement ce qui est décrit dans Exode, chapitre 25, versets 31 à 40. Vous lirez le texte, c'est quelque chose de grandiose, au sujet de comment est construit ce chandelier. Ces sept chandeliers sont en fait d'une seule pièce, et ils sont faits d'or battu au feu. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment de l'or, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment une matière très noble et très pure. Alors, quand c'est battu au feu, c'est-à-dire que toutes les scories, tout ce qui n'est pas bon est enlevé. Les sept chandeliers, dans ce que je vais vous enseigner, sont les sept plans de conscience de la lumière et de la vie. Ce sont les sept niveaux de la création de Dieu qui est lumière et qui est pure, qui est d'or pur. Chacun de ces chandeliers est une unité pure comme l'or. Ça signifie qu'il y a une diversité de sept degrés et une unité qui est l'or, qui est incorruptible dans la manifestation de notre Père Céleste dans l'univers. L'univers de Dieu est une diversité de sept degrés parfaits auxquels sont donnés un pouvoir de croissance, celui du devenir. Parce que c'est dans la création. Hors de la création, il n'y a pas de devenir, parce qu'il n'y a pas de temps. Mais dans la création, c'est comme ça. Et quand Jean voit ces chandeliers, c'est déjà une image, n'est-ce pas, de ce qui est la véritable réalité, mais ça n'est encore qu'une image. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Alors il n'y a pas de nom, il ne dit pas le nom, mais nous savons bien, d'après la description, qu'il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Alors il est le centre, il est là, et il est le pivot de toute la création qui est d'or pur, c'est pur. Voilà pourquoi l'apôtre dit « tout est pur pour ceux qui sont purs ». Et frères et sœurs, chaque chandelier est l'esprit et la vie de Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa plénitude et dans toute sa diversité. Chaque chandelier. Il marche, c'est-à-dire qu'il imprime sa direction au mouvement d'absolument tout. Là, il n'y a pas de place pour l'envie, il n'y a pas de place pour l'égoïsme, il n'y a pas de place pour la rancœur, il n'y a pas de place pour l'orgueil, il n'y a pas de place pour l'égoïsme, il n'y a pas de place pour toutes ces choses-là. Tout se trouve à l'endroit juste, tout est parfaitement en ordre, tout est là où ça doit être, et ce que Jésus voit là, c'est la vision de la réalité de la création. Et encore plus que ça. Mais c'est la réalité de la création. Et dans la création, tout ce que Dieu a fait, c'est bien. Quand il a fini de créer, il a dit, c'est bien. Il était content de lui. C'est la réalité de la création, pas de ce que nous croyons être la réalité. Notre petite existence limitée ici-bas n'est pas la réalité. Vous me regardez là, c'est pas moi vraiment, c'est juste une image de ce que je suis. C'est pas la réalité. Il y a des choses, moi vous me voyez pas, vous me verrez sans doute jamais. En tout cas pas sur cette terre. Jean, il reçoit l'instruction de notre marche, c'est-à-dire de notre progression, de notre transfiguration, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, il reçoit la révélation de ce qui va arriver bientôt, de ce qui va nous arriver bientôt, de ce qui va arriver bientôt à la création. Et si toute la création va être roulée comme un vieux manteau et jetée, pas nous. Nous allons être transfigurés, nous allons être changés. La Bible dit un clin d'œil. C'est un terme... si vous regardez dans le grec, c'est un terme où on retrouve le mot atome. Très petit, très rapide. Alors, il voit la démarche de notre être, c'est-à-dire de notre conscience, dans l'accomplissement de la réalité de Dieu, la réalité divine, de ce qui est en Christ en ce moment. Dans Éphésiens, il nous est dit que nous sommes en Christ, et en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ici-bas, nous sommes bénis aussi, mais nous devons prendre notre bénédiction, ce sont les violents qui s'en emparent, nous dit la Bible. Je me rappelle toujours, la dernière fois que j'ai vu frère Osborne, c'était à Tulsa, chez lui, et il me disait, nous sommes les seuls à pouvoir prouver que ce que nous prêchons est vrai, en opérant des miracles, parce que Jésus est celui qui sauve et qui guérit. Et comme il tremblait un peu parce qu'il avait un début de Parkinson, il disait « J'y crois absolument, quoique l'apparence, n'est-ce pas, est un petit peu différente. » Oui, mes frères et sœurs, on est encore dans la limitation aujourd'hui, mais ça n'est pas la réalité. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Bien sûr que ça peut être pesant, très pesant, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Nous avons une espérance. Ce que nous vivons, c'est un court moment. Un court moment. Je crois dans la résurrection des corps, parce que la Bible parle de la résurrection des corps, alors nos corps, aussi bien que notre intelligence, aussi bien que nos pensées, aussi bien que notre cœur, aussi bien que notre esprit, enfin tout ce qui fait que nous sommes nous, eh bien tout cela est concerné par la révélation, c'est-à-dire par l'Apocalypse. Notre démarche intérieure, tout entière, est dirigée par Dieu. Vous allez voir, quand on va étudier un peu plus loin au sujet des sept églises, des sept étoiles, des sept chandeliers, des sept sceaux, des sept coupes, tout ça, ça nous concerne. Tout cela vient de Dieu, tout cela vient d'en haut, et ça vient à notre rencontre, au fond de nous-mêmes. Et vous voyez, chacun des éléments dont nous sommes faits doit réaliser ce que cela est pour pouvoir dépasser notre condition. Sinon, nous sommes dans les plaintes, nous sommes dans les murmures, nous sommes dans la rancœur, nous sommes dans toutes sortes de sentiments qui ne sont pas des bons sentiments qui glorifient Dieu. Et puis, il y a de quoi être dans tous ces états d'esprit. Parce que, ici-bas, c'est une vallée de larmes. Nous devons aller plus haut que ça. Nous sommes appelés à nous épanouir en Dieu. Ce n'est pas l'épanouissement personnel, c'est l'épanouissement en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous devons devenir la manifestation de Dieu ici-bas, la manifestation de Dieu en nous. Il vit en nous, nous le savons, mais nous devons manifester cela. Nous sommes appelés à le manifester. En fait, mes frères et sœurs, l'Apocalypse, ce n'est pas un livre de catastrophe, c'est l'évangile de la connaissance de Dieu. C'est le livre de catastrophe pour ceux qui périssent, oui, ça c'est sûr. Mais pas pour nous. Parce que, mes frères et sœurs, ici-bas, la vie spirituelle, notre vie spirituelle, elle est toute simple. Ce n'est pas bien compliqué. Premièrement, il y a une compréhension qui s'est éveillée en nous. Je me rappelle, ce 1er juin 1968, quand Raphaël a prêché, j'ai eu la révélation que c'était vrai. Et j'avais l'impression de tout connaître, de tout savoir. C'était une illumination, voilà que j'étais un illuminati. J'étais illuminé, j'étais, ah, je sais, ah, ça c'est la vérité. Et puis, deuxièmement, ça devient de plus en plus clair. Ça s'affirme en nous. Il faut du temps pour cela. Et tout cela nous rend capables de vivre, d'incarner la spiritualité, c'est-à-dire d'incarner Dieu. Je me rappelle toujours Frère Osborne, quand il était venu à Paris, il avait dit, il parlait de ses voyages en Inde, et quelqu'un a été un peu troublé et lui a demandé, mais est-ce que vous ne seriez pas en train de devenir un hindouiste et vous parlez de l'incarnation et tout ça? Il dit oui, moi je crois dans la réincarnation. Parce que Jésus est venu s'incarner une fois en Israël et maintenant il s'est réincarné en vous, en moi, en tous les chrétiens. Je crois dans la réincarnation, mais celle de Jésus. Et il faut, n'est-ce pas, rendre cela réel. Cette incarnation de Jésus en nous. Et puis, sixièmement, à partir de ce moment-là, nous pouvons transmettre à d'autres ce que nous avons reçu, pas simplement la doctrine, mais ça passe aussi par la doctrine. Parce que la doctrine, c'est ce qui explique avec des mots. L'Apocalypse, ça explique avec des mots des choses que Jean a vues. Mais quand vous lisez, ben, vous voyez dans votre imagination des choses, mais ce n'est pas exactement ce que lui a vu. Les peintres ont représenté les sept chandeliers, j'ai été regardé sur Internet. Oh là 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 là, quelle différence il y a d'un peintre à l'autre au sujet de cette scène de Jésus marchant au milieu des sept chandeliers. Mais nous avons à transmettre la vie de Jésus. La doctrine, ça suit après, pour confirmer, pour démontrer que c'est bien selon les Écritures. Mais tout cela, c'est toujours à des degrés différents. Jésus, en chacun de nous, est différent. Parce que nous sommes des membres de son corps. C'est toujours le même Jésus, mais d'une grande diversité. Il se révèle différemment selon chacun. C'est pas qu'il se révèle différent, mais il se révèle d'une façon différente au travers de chacun d'entre nous. À un est donné ceci, à l'autre est donné cela, selon la manifestation du Saint-Esprit, selon sa volonté, Alors, aspirez aux dons les meilleurs, aspirez aux choses les meilleures, et rappelez-vous, la voie par excellence, c'est l'amour. Si vous aimez l'Église, eh bien, vous allez aimer lui apporter ce dont elle a besoin. Si vous aimez les malades, vous allez chercher à lui apporter aux malades ce dont ils ont besoin, etc., etc., etc. C'est toujours l'amour qui est la voie par excellence pour toute manifestation. Et si ce n'est pas l'amour, eh bien, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, quand j'en vois la réalité, c'est-à-dire la globalité de tout dans la création, c'est un choc pour lui, parce qu'il est terrassé par la vision, nous dit la Bible. Il est terrassé parce que là, la vie spirituelle, elle est spectaculaire, elle n'est pas toute simple. Je vous expliquais que pour nous, en fait, c'est simple, petit A, petit B, les choses comme ça, on progresse. Mais quand on prend tout ça en pleine face, dans une vision, c'est spectaculaire au point que Jean a peur quand il voit Jésus, alors qu'il connaissait bien Jésus. Mais il le connaissait comment ? Selon la chair. L'apôtre Paul a eu aussi cette révélation. Il dit, plus personne, on a connu autrefois selon la chair, mais maintenant c'est fini, on ne connaît plus Jésus comme ça. C'est terminé, c'est très différent maintenant. Il nous faut nous habituer à connaître ce Jésus différent de ce qu'il était quand il était sur la terre. Mais nous ne pouvons pas le connaître tel qu'il est réellement si nous ne connaissons rien du tout à son sujet. Il est venu pour manifester quelque chose que nous devons connaître vraiment, pour pouvoir le manifester, parce que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous devons être au moins comme il était dans ce monde. Si nous ne sommes pas au moins comme il était dans ce monde, qu'est-ce qu'on prétend pouvoir être comme lui quand nous serons face à lui hors de notre corps, de chair? Alors, il voit l'unité dans la diversité, et ça c'est quelque chose qu'on peut à peine comprendre. Il existe, cette diversité, elle existe sur la terre, mais on a tellement pris l'habitude qu'on n'y fait plus attention. Par exemple, on dit toujours, vous savez, il n'y a pas deux flocons de neige pareils, vous imaginez? Il n'y a pas deux fleurs pareilles, il n'y a pas deux étés identiques. Cet été est très différent de l'été passé. Hein? On ne peut pas dire le contraire. C'est une diversité. Et pourtant, c'est l'été. Mais c'est différent. Et nous devons comprendre ces choses-là, mais on peut les comprendre avec des images. Mais la réalité, quand il voit la réalité, ça lui fait peur. Et alors, quelqu'un qui marche au milieu de cette diversité, c'est Jésus. Mais si je vous parle, moi, Michel Genton, de Jésus, comment est-ce que vous le voyez? Je me rappelle toujours, un des interprètes les plus célèbres de Frère Osborne en France, c'était le pasteur Bernard Clément, que j'aimais beaucoup, qui était un orateur extraordinaire. Et un jour, il nous disait qu'il y avait deux vieilles sœurs qui se chipotaient au fond de l'église, mais ça chauffait, hein, parce qu'elles disaient qu'elles avaient vu Jésus. Il y en a une qui disait qu'il était roux, puis l'autre qui disait qu'il était blanc. Alors elles s'engueulaient à cause de ça. Comment est-ce que vous imaginez, quand je vous dis Jésus, comment le voyez-vous? Nous ne pouvons le voir que du point de vue, du degré où nous nous tenons. Et on le voit malheureusement beaucoup avec la chair. C'est-à-dire, quand vous pensez à Dieu, comment vous voyez Dieu, vous? Moi, je ne sais pas. La plupart des gens voient un vieux monsieur avec une barbe blanche. C'est pas ça, hein. Quoique, mais c'est pas ça. Jésus est la grandeur qui nous attend. C'est-à-dire que nous allons atteindre. Nous avons à rencontrer Jésus tel qu'il est, nous l'avons rencontré, tel qu'il s'est montré au départ, mais nous ne pouvions pas le voir en pleine lumière, dans sa plénitude, dès le premier jour, ça nous aurait tué. Alors il s'est révélé petit à petit. Nous devons le rencontrer tel qu'il est, et non tel que nous l'imaginons, ou tel que les membres du clergé ont bien voulu nous le montrer. Ou les peintres, ou les cinéastes. Il y en a qui ont montré des Jésus vraiment bizarres. Hein? Alors, il est en vous, tout en étant en moi, et partout en même temps, et même là où il n'y a rien qui existe. Ça nous dépasse, on peut le dire avec des mots, mais ça nous dépasse. Il est dans l'infini, il est infini lui-même. Et il nous faut cette vision. Voilà pourquoi je vous disais, habituez-vous déjà à contempler la créature, la création, où Dieu se manifeste et nous parle et nous enseigne. Parce que si vous ne faites pas déjà ça avec respect et attention, comment est-ce que vous allez pouvoir être préparé à voir Jésus tel qu'il est ? Toujours dans la création, mais très différent de ce que nous imaginons, parce que nous imaginons parce que Jésus était l'image du Dieu vivant. Mais il n'est plus comme ça. Or Jean, il n'avait pas du tout prévu de le voir ainsi. Et quand il l'a vu, ça lui a foutu une trouille terrible. Vous lirez les Écritures. Il a eu peur, la peur de sa vie. Mais notre Seigneur se fait connaître dans l'Apocalypse. Et plus nous connaissons l'Apocalypse, plus nous connaissons le Seigneur, et plus la confusion disparaît. Plus on s'aperçoit que tous nos pourquoi sont quand même bien vains. Ça commence à disparaître, les pourquoi. Il faut rentrer en soi-même, il faut se retourner, si vous voulez, pour le rencontrer en vous-même, dans la contemplation. Je vous ai fait toute une série de prédications sur la contemplation, vous pouvez les trouver sur Révélation Bible. Le contempler au ciel, c'est peut-être un petit peu trop pour la majorité d'entre vous. Alors il faut commencer par le reconnaître en soi et dans les autres. Et là déjà c'est un problème. Reconnaître Jésus dans les autres. On veut bien reconnaître Jésus dans ceux qui sont gentils. Mais dans les autres, c'est des fois un peu difficile, hein? Quand on fait cet exercice-là, alors ça exclut toute discussion de doctrine. Je me souviens toujours, il y en a un au moins qui avait vu clair au Burkina, c'est le pasteur Carambéry qui avait dit, en me présentant à une pastorale, alors que je devais enseigner, il devait y avoir plus de 2000 pasteurs, il a dit, Michel Janton n'est pas un homme de doctrine, mais de vie et d'expérience. On doit dépasser ça, quoi que nous en ayons besoin. Je sais qu'à partir d'un certain degré de connaissance de Dieu, d'union avec lui, notre conscience ne peut plus descendre dans l'ignorance. Déjà le premier jour, le peu que je savais de Jésus au travers de ce que Raphaël prêchait, c'était déjà une plénitude. Je ne pouvais plus jamais changer, je ne pouvais plus jamais redescendre dans autre chose, dans une ignorance. Alors, quand on grandit, quand on fait l'effort d'ajouter à notre foi la vertu, la patience, la tempérance et toutes ces choses dont nous parle l'apôtre Pierre, on en arrive à cet véritable amour fraternel qui est tout en haut. Et puis, une fois qu'on en est à cet amour fraternel, alors la pierre de fait peut venir se poser, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire Dieu. Mais Dieu ne peut pas venir se poser tant qu'il n'y a pas ces degrés qui sont posés dans notre vie. Et il nous faut ces degrés, il nous faut monter ces degrés. Des degrés qu'on trouve dans le temple aussi. Notre conscience, à partir d'un certain moment, elle est fixée sur le Seigneur. Et on est déjà dans la vie éternelle. Alors il y en a qui s'arrêtent tout simplement là. Il faut encore aller plus loin. Il faut qu'on vive. Mais quand je dis il faut qu'on vive, ça ne veut pas dire il faut qu'on reste ici sur cette terre. Parce que qu'on vive ou qu'on meure, ça n'a plus d'importance. L'apôtre Pierre dit, mais ça m'est égal. Moi, la mort m'est un gain. Il n'était pas suicidaire, mais simplement il réalisait que la réalité... C'est pas ça. Alors on dit, oui, mais c'est triste pour ceux qui restent. Ah, c'est la baliverne tout ça. C'est triste, oui, c'est triste, bien sûr c'est triste. Mais mais Dieu pourvoit à notre consolation. Oui ou non? On a une espérance, on n'est pas comme ceux qui savent rien. On a une espérance. Alors, on est libre de tout ça. On n'a plus peur ni de la vie, ni de la mort, ni de rien. On est tranquille, on est dans les mains de Dieu, on sait. On sait. Le bien et le mal, ça disparaît parce que quand on sait comme cela, quand on a cette révélation-là, même la manifestation du mal, on sait qu'elle sert au bien. Alors, ça peut nous choquer, nous faire peur, comme Jésus a fait peur à Jean, mais ça ne dure pas longtemps. D'accord ? Un homme né de nouveau, il vit déjà dans l'éternité, dans ce monde. La vérité, elle est dans son cœur. Il faut qu'elle se manifeste, qu'il la saisisse, qu'il la rende réelle, qu'il la manifeste. Et la vérité, ce n'est pas une doctrine plus vraie qu'une autre. Ce n'est pas ça. La vérité, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Approuvant ce que vous êtes maintenant et approuvant ce que vous allez devenir. Voilà pourquoi je vous disais, il a donné le pouvoir du devenir. Mais il l'approuve déjà. Il n'est pas en train de se ronger les ongles en se demandant « Oh, mon Dieu, comment il va tourner ?» Pas du tout. Dieu sait. Pourquoi il sait? Parce que c'est déjà fait depuis longtemps. Ce qu'on vit ici, on croit que c'est maintenant qu'on le vit. Alors on la démontre. Titi m'a dit l'autre jour, je suis content, je vais recevoir une montre. C'est bien. Moi, je suis tout content. J'ai retrouvé mes montres dans mes cartons. Je suis content au bout d'un an quand même. Mais Dieu, il sait déjà tout parce que tout a déjà été fait. Dans cette marche, au milieu des chandeliers, au milieu de la lumière, de cet or incorruptible, vous êtes en celui qui marche, qui avance, au milieu de ces chandeliers, vous êtes en lui. Jésus est venu vivre et mourir ici-bas pour que nous puissions le suivre. Le suivre ici-bas, en ayant cette pensée que notre marche, c'est au milieu des chandeliers. C'est pas simplement sur le bord du trottoir, ou au boulot, ou non. Jésus est venu nous racheter dans le visible, dans le palpable, avec toutes les souffrances que ça lui a occasionnées, alors que nous avions déjà été rachetés dans le vrai monde, dans la réalité, dans le monde spirituel. Jésus disait, Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Qu'est-ce qui a été aimé avant la fondation du monde? Jésus, l'agneau de Dieu, qui a été immolé avant la fondation du monde. Et quand il a été immolé, nous étions en lui. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé seulement il y a 2000 ans à la croix. Ça, c'est juste la manifestation dans la chair. Afin que notre âme qui est créée puisse la prendre et être sauvée en l'acceptant. Mais c'est spirituel. Tout ça, c'était déjà accompli. C'était déjà fait. Tout est accompli depuis bien plus longtemps que la naissance, la mort et la résurrection de Jésus. Mais ça a été accompli dans la chair, comme nous avons à accomplir dans la chair les choses que Jésus nous dit de faire. Sa naissance et sa mort ont été nécessaires pour nous ici-bas, c'était afin que nous puissions prendre conscience que c'est vrai qu'il nous a tant aimés. Parce que notre âme n'en savait rien. Notre âme, c'est un truc qui était créé. C'est ça qui est sauvé, c'est notre âme. Notre âme a été rachetée au prix du sang de l'agneau. Et c'est ça qui est sauvé, c'est pas notre esprit. Notre esprit, de toute façon, il retourne à Dieu. Ou si notre esprit est un mauvais esprit, il retourne dans les ténèbres. Mais notre âme a besoin d'apprendre, et c'est pourquoi il y a eu toute cette histoire, et vous faites partie de cette histoire. Et vos souffrances me touchent. Les souffrances du corps de Christ me touchent. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Quand les membres sont dans la joie, tous les membres sont dans la joie. Tout à l'heure, Stéphane va nous préparer un couscous. On est déjà tous contents. Titi m'a dit, on commence par quoi? Par la prédication ou le couscous? Je dis par la prédication. Il dit, mais j'ai faim. Je dis, ben, tu manges un bout de pain en attendant. On est dans le temps, hein, et les choses doivent être dans l'ordre. Nous devons prendre, notre âme doit prendre conscience des choses, et on apprend petit à petit, et puis plus on apprend de ce qui est dans les Écritures, plus on a de chances d'apprendre ce qu'il est réellement. Et Jean a été le premier à avoir cette vision extraordinaire de comment il est. Paul aussi, mais il n'en a pas parlé. Il dit, non, j'ai vu des choses, c'est, je ne peux pas dire. D'ailleurs, Jean aussi, il a reçu l'ordre, il y a certaines choses, il dit, non, dis pas ça. Et il en va de même pour notre vie, mes frères et sœurs. Ce que vous vivez ici-bas, c'est déjà réglé et terminé en haut. C'est déjà réglé. Il y a le moment de Dieu, comme je prêchais l'autre jour. Le temps de Dieu, ici-bas, mais en haut. Pas tout ça. En haut. Je me rappelle toujours ce que le frère Osborne disait. Il était d'une logique implacable. Il disait, la volonté de Dieu, elle doit être faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors faisons-la. Mais pour pouvoir la faire, il faut la connaître. Et pour la connaître, on a les Saintes Écritures. C'est logique. Ça a déjà été fait, même avant votre naissance. Maintenant, les scientifiques arrivent à voir, dans les gènes, quelle maladie un bébé va développer, quel caractère il va avoir. Tout est déjà écrit en nous. Et par la science, maintenant, on s'aperçoit que tout ce que la Bible nous dit à ce sujet, c'est que c'est vrai. C'est vrai. La science approche de plus en plus. Les chrétiens restent en arrière. Alléluia. Rien de véritablement spirituel. Ici-bas, nous vivons dans la chair afin de montrer aux puissances infernales ainsi qu'aux impies que même amoindris par la chair, nous sommes enveloppés dans cette chair, amoindris, limités par cette chair, eh bien nous leur montrons que même amoindris, eh bien nous gardons la foi en Jésus, le seul vrai Dieu. Et que tout ça, c'est juste un moment à passer, peut-être un sale moment, mais pour tout le monde, c'est un sale moment. Parce que ce qui nous arrive, c'est selon nos forces. Nous ne sommes pas éprouvés au-delà de nos forces, et les épreuves que vous avez, elles sont selon vos forces. Moi, je suis impressionné quand je vois les épreuves de certains, et puis d'autres sont impressionnés quand ils voient mes épreuves. Il n'y a que les nouilles qui ne sont pas impressionnées et que ça fait rire.
Il y a des nouilles.
Ben, vous les aimez, les nouilles. Avec une sauce, quand même, hein. Ça passe mieux, parce que... Une petite bolognaise... Il y a déjà plus de place, plus de puissance pour l'ennemi. Déjà maintenant. Il est déjà maintenant le tout-puissant. À nous de le réaliser, à nous de le rendre réel. Dans le monde réel, dans le monde de Dieu, dans le monde de notre Père Céleste, il y a aucune place pour l'ennemi. Il a été précipité. Il est dans les lieux célestes, autour de la terre. Et puis, il nous embête. Mais frères et sœurs, en réalité, c'est nous qui l'embêtons, parce que nous connaissons son avenir. Et pour lui, le mot apocalypse, ça signifie vraiment catastrophe. Pas pour nous. Le diable croit en Dieu, mais il ne croit pas à Dieu. Il ne peut pas croire Dieu parce qu'il est mauvais. Il y en a qui disent, oh, il a chuté, il est devenu, il est déchu. C'est pas vrai, il était mauvais dès le début. C'est écrit dans la Bible, il était mauvais dès le début. Ça veut dire que Dieu l'a créé comme ça, pourri. Voilà. Et puis ceux qui veulent me contredire, qui m'expliquent alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il était mauvais dès le commencement. C'était sa nature profonde, il n'y a rien de bon en lui. Il faut arrêter avec ses sentiments. Oh, c'était un ange extraordinaire. Non. Vous avez vu ça, vous. Vous avez lu ça au sujet d'une histoire racontée au sujet de Tyr, du roi de Tyr et tout, mais c'est dans l'imagination des théologiens. Ce que la Bible nous dit, c'est qu'il était créé mauvais dès le départ. Et il a été extirpé de Dieu avec son cortège d'esprits mauvais, c'est-à-dire d'indifférence, de méchanceté, d'arrogance, de bêtise, d'avidité, de malice, et puis de toute cette sorte d'esprit dont les gens sont atteints. Et on dit, oh, ils ont un certain état d'esprit. Eh bien, de cela, Dieu voulait se débarrasser. Et il nous a envoyés sur cette terre, nous sommes là, dans la chair, justement pour débarrasser Dieu de tout ça. Nous sommes avant tout des chasseurs de démons. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 1. Ils imposeront les mains aux malades. Non. 1. Ils chasseront les démons. C'est notre boulot. C'est notre travail. Et maintenant, on a appris. On a appris grâce au frère Blé quelque chose de saint, quelque chose de sacré pour pouvoir encore mieux les neutraliser et les chasser. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre frère Blé. Voilà où se trouve la catastrophe dans ce livre. Uniquement dans l'avenir du diable et de ceux qui le suivent et veulent bien rester dans l'ignorance. Pour eux, le mot Apocalypse est synonyme de catastrophe réellement, mais pas pour nous. Pour nous, c'est vraiment la révélation de l'Évangile, de la bonne nouvelle de qui est Dieu, comment est Dieu et comment nous sommes et qui nous sommes en lui. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur Jésus de nous garder dans ta paix et de permettre que nous passions les épreuves que nous avons à passer avec dignité pour te glorifier encore davantage, afin que tous ces mauvais esprits puissent voir au travers de nous ta sagesse infiniment variée alors qu'ils nous regardent vivre. Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.